toute réponse constitue une prise dangereuse sur l'univers. Malgré une apparence sensée, elle n'explique peut-être rien. Le fouet Zenzuni. Comme l'attente de l'escorte promise s'éternisait, Odrade fut d'abord courroucée, puis amusée. Finalement, elle se mit à suivre les robots mécas qui circulaient dans le hall, en faisant exprès de gêner leurs mouvements. La plupart étaient de petite taille, aucun n'avait l'aspect humanoïde. Purement fonctionnel, typique des cerveaux mécaïciens. Toujours en train de courir, courir, courir dans les jambes de tout le monde, sur jonction ou ailleurs. Ils constituaient un spectacle si familier que personne ne faisait attention à eux. Comme ils n'étaient pas capables de réagir quand on s'interposait délibérément sur leur chemin, ils s'immobilisaient dans un gémissement plaintif. Les honorés matriarches n'ont que très peu ou pas du tout d'humour. Je le sais, Murbella, je le sais. Mais sont-elles capables de recevoir mon message ? Dortoujla, visiblement, avait compris. Sortant de sa brume morose, elle se mit à suivre les facéties de la mère supérieure avec un large sourire. Tam avait un regard désapprobateur mais tolérant. Suipol était ravi. Odrade dut l'empêcher de se joindre à son jeu. « Laisse-moi attirer sur ma seule tête les foudres de qui de droit, ma fille. Je ne me fais pas d'illusions sur ce qui m'attend. » Quand elle fut sûre d'avoir bien transmis le message, Odrade alla se placer sous l'un des lustres. « Venez ici, Tam, » dit-elle. Obéissante, Tam se mit en face d'elle et l'observa attentivement. « Avez-vous remarqué, Tam, comme les vestibules modernes ont tendance à être de plus en plus étroits ?» Tamalan accorda un regard au décor qui l'entourait. « Autrefois, » reprit la mère supérieure, « les vestibules étaient vastes pour donner aux grands de ce monde un sentiment d'espace prestigieux et aussi pour impressionner les autres par leur majesté, bien sûr. » Saisissant l'esprit de ce nouvel intermède, Tamalan renchérit. « De nos jours, il suffit de voyager pour se sentir important. » Odrade se tourna vers les robots immobilisés en plein milieu du hall. Certains bourdonnaient et gigotaient. D'autres attendaient placidement que quelqu'un ou quelque chose vienne restaurer un peu d'ordre. L'auto-réceptionniste, un cylindre phallique de place noire doté d'un unique œil com à facettes, sortit de sa cage et se fraya un chemin parmi les robots en panne pour venir faire face à Odrade. « Bien trop humide aujourd'hui, » fit-il d'une voix féminine saccharinée. « Je me demande à quoi il pense à la régulation. » Par-dessus la tête phallique, Odrade s'adressa à Tamalan. « Pourquoi faut-il que ces mécaniques soient programmées pour singer des humains amicaux ?»«
C'est une obscénité, » approuva Tamalan.
Elle poussa l'auto-réceptionniste d'un vigoureux coup d'épaule. Il pivota pour étudier la source de cette intrusion, mais n'eut pas d'autre réaction. Odrade eut soudain l'impression qu'elle avait touché du doigt la force qui animait le djihad butlérien. Motivation de masse en folie. Mon propre préjugé personnel. Elle scruta la mécanique qui lui faisait face. Attendait-elle les instructions ou fallait-il lui adresser directement la parole ? Quatre nouveaux robots firent leur entrée dans le hall. Odrade reconnut les bagages du groupe entassés sur eux. « Toutes nos affaires ont été soigneusement inspectées, j'en suis sûr. Fouillez tant que vous voudrez, vous ne trouverez aucun indice sur nos légions. » Les quatre machines, longeant le mur, se trouvèrent bloquées par les robots immobilisés. Elles s'arrêtèrent, attendant que cette situation inhabituelle s'éclaircisse. Odrade leur sourit. Voyez passer les éphémères qui camouflent nos mois secrets. Camouflés et secrets. Deux termes propres à rendre inquiètes celles qui les observaient. Allons, Tam. Tu connais bien ce petit jeu. Mettre l'énorme contenu de leur subconscient mal à l'aise. Créer des sentiments de culpabilité qu'elles sont incapables de reconnaître. Les déboussoler comme je l'ai fait avec les robots. Leur inspirer la prudence. Quels sont les véritables pouvoirs de ces sorcières Bene Gesserit ? Tamalan fit ce que la mère supérieure attendait d'elle. Éphémère et moi secret. Elle développa la chose pour les Oikom sur le ton que l'on utilise pour s'adresser à des enfants.
Qu'emportez-vous quand vous quittez votre nid ? Êtes-vous du genre à essayer de tout faire entrer dans vos bagages ou vous limitez-vous aux nécessités ?
Qu'est-ce que les observatrices considèrent comme des produits de nécessité ? Des accessoires de toilette ? Des vêtements lavables ou bien jetables? Des armes? Elles en ont certainement cherché dans nos valises. Mais les révérendes mères ont rarement des armes visibles avec elles.
Quel endroit horrible!
Fit Dortoujla en venant se placer face à Odrad pour épauler Tamalan.
On dirait même qu'il s'agit d'une volonté délibérée. Ah, maudite qui nous observait.
Regardez bien Dortoujla, vous la reconnaissez? Pourquoi est-elle revenue alors qu'elle sait le sort que vous seriez capable de lui réserver? Voyez comme elle se soucie peu de servir de pâture à vos futards. Ce n'est qu'un lieu de transition, Dortoujla, dit-elle à haute voix. La plupart des gens ne le choisiraient jamais comme destination finale. Il faut en accepter l'inconfort, et ces désagréments mineurs ne sont là que pour vous rappeler votre situation.
Une étape, ce ne sera jamais beaucoup plus, à moins qu'elle ne reconstruise entièrement l'endroit.
Entendait-elle? Odrad leva un visage impassible vers l'œil comme qu'elle avait choisi. Il y a ici une laideur intentionnelle qui nous dit « Nous vous fournirons de quoi vous remplir l'estomac, vous vider la vessie et les intestins, dormir, subvenir aux menus besoins rituels du corps. Mais vous devrez partir rapidement, car la seule chose de vous qui nous intéresse vraiment, c'est l'énergie que vous laisserez derrière vous. » L'autoréceptionniste contourna à reculons Tamalan et Dortoujla, essayant de rétablir le contact interrompu avec Odrad.
Vous allez nous conduire immédiatement dans nos appartements, lui dit la mère supérieure en fixant d'un air courroucé son œil de cyclope.
Mais certainement, je crains que nous n'ayons manqué à nos devoirs.
Où avait-on été lui chercher cette voix sucrée, écœurant? Mais en moins d'une minute, tout le groupe, Odrad en tête derrière les robots chargés de bagages et suivis de près par Suipol, Tamalan puis Dortoujla, avait quitté le vestibule pour emprunter un couloir de l'hôtel. Il était visible que toute une aile était désaffectée. Signe que Jonction n'était plus aussi fréquentée que par le passé. Intéressant. Les volets avaient été condamnés sur toute la longueur d'un couloir. Quelque chose à cacher? Malgré la pénombre qui en résultait, Odrad remarqua la poussière qui couvrait le sol et le rebord des fenêtres. Seules quelques rares traces des mécas d'entretien étaient visibles. Désir de dissimuler ce qu'il y avait derrière ces fenêtres? Peu probable. L'endroit était à l'abandon depuis trop longtemps. Ce qu'elle voyait dans la partie utilisée de l'hôtel correspondait à un schéma connu. Peu de gens se déplaçaient, typique des honorés matriarches. Qui aurait osé se montrer inutilement alors qu'il était plus sûr de se terrer dans un coin en priant pour ne pas être remarqué par de dangereuses bêtes de proie? Ainsi, dans la cité, les allées privées menant aux résidences des personnalités importantes étaient soigneusement entretenues, alors que les autres étaient délaissées. Seuls les beaux quartiers avaient droit à un traitement de faveur. Quand les réfugiés commenceront à arriver de Gameux, il y aura de la place pour eux. Dans le hall, un robot avait tendu à Suipol un pulso-guide en lui disant « Pour trouver votre chemin par la suite, une petite boule bleue munie d'une flèche jaune flottante qui s'orientait automatiquement vers le point de destination qu'on lui indiquait. Ça sonne quand vous arrivez. » L'avertisseur du pulso-guide bourdonna. « Nous sommes arrivés. Mais où ?» Encore un endroit où tout le confort était fourni, mais qui demeurait rebutant. Murs mauves, plafond blanc, revêtement de sol jaune et mou. Pas le moindre canisiège. Odrad ne s'en plaignait pas, bien au contraire, mais c'était une lacune qui dénotait le souci de faire des économies plutôt que celui de tenir compte des préférences d'une invitée de marque. Une partie du mobilier était recouverte de toiles permaflox. Et au toucher, Odrad sentit derrière la faible résistance d'un matériau plastique. Les tons s'accordaient à ceux des murs et du sol. Le lit réservait à Odrad un léger choc. Quelqu'un avait pris un peu trop à la lettre sa demande de disposer d'une simple planche pour dormir. C'était un rectangle de place noire, sans literie ni oreiller. Suipol, en le voyant, avait fait mine de protester, mais Odrad l'avait fait taire d'un signe. Malgré les ressources du Bene Gesserit, le confort était souvent la dernière préoccupation des révérendes mères. La tâche à accomplir, c'était cela qui importait avant tout. Si la mère supérieure devait passer la nuit sur une surface dure sans la moindre couverture, c'était à mettre sur le compte de sa mission. De toute façon, les Bene Gesserit avaient une manière à elles de s'adapter à de telles inconséquences.
Audrade se durcit contre cet inconfort, consciente du fait que, si elle élevait une objection, elle risquait de se retrouver face à une nouvelle insulte délibérée. Qu'elle l'ajoute au volume de leur subconscient et qu'elle se tracasse pour ça si elles veulent. La convocation tomba du plafond tandis qu'elle inspectait leur quartier d'un air peu concerné et plutôt amusé. Une voix fluette relayée par des évents au-dessus de leur tête ordonna, au moment où Audrade et les autres revenaient dans le salon central,
« Présentez-vous dans le hall où une escorte vous conduira devant la très honorée matriarche. »
« J'irai seul, » dit Audrade en faisant taire d'un geste les objections des autres. Une honorée matriarche en robe verte attendait sur une chaise fragile à l'endroit où le corridor débouchait dans le vestibule. Sa figure était bâtie comme une muraille de château antique, pierre sur pierre. Sa bouche ressemblait à une écluse par où elle était présentement en train d'absorber, à l'aide d'une paille transparente, un liquide pourpre que l'on voyait monter par à-coups. Le liquide avait une odeur sucrée. Les yeux de la fille étaient des canons pointés par-dessus les remparts. Son nez, un plan incliné par où se déversait la haine de son regard. Le menton était faible, comme en surplus. Une adjonction, ou plutôt un vestige d'une construction plus ancienne. On y voyait l'enfant qu'elle avait été. Et quant à ses cheveux, ils avaient été artificiellement foncés pour ressembler à un pâté brun de boue séchée. Sans importance, les cheveux. Ce qui comptait, c'était les yeux, le nez et la bouche. Elle se mit lentement, insolemment, debout, comme pour bien montrer à Audrade la faveur qu'elle lui faisait simplement en s'apercevant de sa présence. La très honorée matriarche a accepté de vous recevoir. La voix était pesante, presque masculine. Un orgueil si haut situé qu'elle était obligée de le laisser voir quoi qu'elle fasse. Scellée au mortier d'indestructibles préjugés. Elle savait tant de choses qu'elle était une vitrine ambulante de crainte et d'ignorance crasse. Audrade voyait en elle une démonstration parfaite de la vulnérabilité des honorés matriarches. Après avoir emprunté une succession de corridors, tous brillamment éclairés et entretenus, elles arrivèrent dans une longue salle où un alignement de fenêtres laissait entrer une profusion de soleil. À une extrémité, une console militaire complexe était en train d'afficher des cartes planétaires et spatiales. Le centre de la toile où vivait la reine araignée. Audrade avait des doutes. Les équipements étaient trop évidents. Leur conception était différente de ce que l'on trouvait dans la dispersion, mais on ne pouvait se tromper sur leur usage. Les champs que les humains étaient capables de manipuler avaient leurs limites physiques, et on ne pouvait pas confondre un casque d'interface mentale avec autre chose, même s'il avait une forme ovale tout en hauteur et une couleur jaune sale. Elle fit du regard le tour de la salle. Le mobilier était sommaire. Quelques sièges pliants autour de petites tables. Une large zone libre où, probablement, des subordonnés pouvaient attendre leurs ordres. Rien qui pût gêner les allées et venues des personnes. Cette salle était censée abriter un état-major efficace. Que la sorcière Bene Gesserit voit ça et soit impressionnée. Les fenêtres de la longue façade laissaient apercevoir des jardins avec des allées de pierre plate. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Où est la reine araignée? Où dort-elle? À quoi ressemble sa tanière? Deux femmes entrèrent du jardin par une large porte-fenêtre voûtée. Elles portaient toutes les deux une robe rouge ornée d'arabesques et de dragons scintillants. Des fragments de gémones utilisés comme décoration. Audrade observait dans un silence prudent, attendant d'être présentée par celle qui l'escortait. Mais elle se retira en hâte après avoir prononcé un minimum de mots. Sans les renseignements de Murbella, c'était la plus grande, celle qui se tenait à côté de la reine araignée, que la mère supérieure aurait prise pour la plus importante. Mais c'était en réalité la plus petite des deux. Tout à fait extraordinaire. Elle ne s'est pas seulement hissée au pouvoir. Il a fallu qu'elle se faufile à travers les moindres failles. Un jour, ses sœurs se sont retrouvées devant le fait accompli. Elle était là, fermement ancrée au centre de sa toile. Et qui aurait pu protester? 10 minutes après l'avoir quittée, on doit avoir du mal à se souvenir de la cible de ses protestations. Les deux femmes étaient en train de dévisager Audrade avec une intensité égale à la sienne. Exactement ce qu'il faut. L'aspect physique de la reine araignée était plus qu'une surprise. Jusqu'à cet instant, aucune description détaillée d'elle n'était parvenue au Bene Gesserit, qui ne disposait que de projections temporaires et de reconstitutions fondées sur des indications disparates. Enfin, Odrade pouvait voir de ses yeux cette étonnante petite femme, dont les muscles puissants, comme on pouvait s'y attendre, saillaient sous le maillot de corps rouge qu'elle portait sous sa robe. L'ovale vite oublié de son visage concentrait l'attention sur ses yeux bruns placides où flottaient des points oranges. Elle a peur et cela la rend furieuse, mais les motifs précis de sa peur ne peuvent pas être définis. Tout ce qu'elle a pour le moment, c'est une cible, moi. Qu'espère-t-elle donc tirer de ma personne? Celle qui l'accompagnait ne lui ressemblait en rien. D'aspect, elle était beaucoup plus dangereuse. Ses cheveux dorés étaient soigneusement coiffés, son nez était légèrement crochu, ses lèvres fines, la peau de ses joues tendue sur ses pommettes hautes. Mais c'était surtout son regard chargé de venin qui attirait l'attention. Odrade regarda de nouveau la reine araignée. Beaucoup auraient du mal à décrire la plupart de ses traits une minute après l'avoir quittée. Ce nez, par exemple. Droit? Oui, plus ou moins. Les sourcils avaient la couleur du chaume de ses cheveux. La bouche, rose quand elle s'ouvrait, était presque inexistante autrement. C'était un visage où le regard avait du mal à s'attarder. Il en résultait une impression de flou désagréable.
« Ainsi, vous êtes à la tête du Bene Gesserit. »
La voix était également en dessous de la norme. Un galaque aux inflexions étranges, mais pas d'expression dialectale, bien qu'on les sente au bout de sa langue. Il y avait là une manipulation linguistique. Les renseignements fournis par Murbella permettaient de le ressentir.
« Elle possède quelque chose qui ressemble à la voix, sans égaler ce que vous m'avez appris, mais elles savent faire d'autres choses. Des tas de trucs avec les mots. »
Des trucs avec les mots. « Comment dois-je m'adresser à vous ?» demanda Odrade.
« J'ai entendu dire que vous m'appeliez la reine araignée. »
Dans ses yeux dansaient de méchantes taches oranges. En vous voyant ainsi au centre de votre toile, et compte tenu de vos vastes pouvoirs, il m'est difficile de ne pas l'admettre.
C'est donc la chose que vous retenez, mes pouvoirs, vaniteuse.
La première chose qu'Odrade avait remarquée en réalité, c'était l'odeur que cette femme dégageait. Elle était imbibée d'un parfum épouvantable. Pour cacher ses phéromones? On l'avait peut-être mise en garde contre le talent Bene Gesserit qui consistait à tirer une foule de renseignements de minuscules données sensorielles. Mais le plus probable était qu'elle avait un faible pour ce parfum. L'odieuse mixture évoquait des fleurs exotiques. Un souvenir de son monde natal? La reine araignée porta la main à son menton effacé.
« Vous pouvez m'appeler Dama. »
Cela ne plut pas à celle qui l'accompagnait.
« Mais de tout le million de planètes, c'est la dernière de nos ennemis !»
C'est donc ainsi qu'elle se réfère au vieil empire. Dama leva la main pour lui intimer le silence. Geste automatique et combien révélateur. Dans les yeux de celle à qui il s'adressait, Odrade vit briller un éclair qui n'était pas sans lui rappeler Beyonda, fait de malveillance à l'affût d'un point faible par où attaquer.
« La plupart des gens qui s'adressent à moi doivent m'appeler très honoré matriarche, » déclara Dama. « C'est un honneur que je viens de vous accorder. »
Elle fit un geste en direction de la porte-fenêtre voûtée par où elle était arrivée.
« Allons faire quelques pas dehors, vous et moi seulement, pendant que nous discuterons. »
Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Odrade s'arrêta sur le seuil pour regarder une carte fixée au mur. En noir et blanc, avec des tracés sinueux, des motifs aux contours irréguliers et des légendes en galaque. Il s'agissait des jardins avec leurs allées de pierres plates et l'indication des plantations. Odrade se pencha pour mieux les étudier, tandis que Dama attendait avec un air de tolérance amusée. Oui, il s'agissait presque exclusivement d'arbres rares et de massifs recherchés, avec très peu d'essence donnant des fruits comestibles. Le tout dénotait un orgueilleux instinct de possession, et cette carte était là pour en témoigner. Dans le patio, Odrade déclara « J'ai remarqué votre parfum. » Dama semblait perdue dans des souvenirs nostalgiques, et sa voix, lorsqu'elle répondit, était chargée de subtils sous-entendus. Marqueur d'identité florale à l'intention de son propre buisson flamme. Qui l'aurait imaginé? Mais ses pensées la rendent triste et furieuse à la fois. Il se demande pourquoi je mets la question sur le tapis.
Autrement, le buisson ne m'aurait pas accepté,
avait dit Dama. Le choix du temps est intéressant. Son accent quand elle parlait galaque n'était pas trop difficile à comprendre. De toute évidence, elle s'adaptait inconsciemment à la personne à qui elle s'adressait. Une bonne oreille. Il ne lui faut pas plus de quelques secondes pour observer, écouter et adapter sa voix de manière à être comprise. C'est un trait vieillard que la plupart des humains maîtrisent rapidement. L'origine, Audrade la voyait dans un phénomène de coloration protectrice. Je ne veux pas être pris pour un étranger. Un caractère d'adaptation présent dans les gènes. Les honorés matriarches ne l'avaient pas perdu, et cela constituait un de leurs points faibles. Les tonalités de leur inconscient n'étaient pas entièrement enfouies. Elles étaient trop révélatrices. Malgré sa vanité criante, Dama était intelligente et autodisciplinée. C'était un plaisir de s'en apercevoir. Cela évitait d'avoir recours à trop de circonlocutions. Audrade s'arrêta en même temps que Dama en bordure du patio. Leurs épaules se touchaient presque, et la mère supérieure, contemplant les jardins qui s'étendaient au-delà, était frappée par leur aspect presque Bene Gesserit.
« Videz votre sac, » fit Dama.
« Quelle valeur m'attribuez-vous en tant qu'otage ?»«
La lueur orange. »
« C'est une question que vous vous êtes inévitablement posée, » reprit la mère supérieure.
« Poursuivez, »
murmura Dama. L'éclat orange s'était atténué. « La communauté des sœurs dispose de 3 personnes qui peuvent me remplacer, » articula Audrade en associant à ses paroles son regard le plus pénétrant. « Il nous est possible de nous affaiblir mutuellement d'une manière qui causerait notre anéantissement à toutes les deux. »
« Nous vous écraserions comme un vulgaire insecte. »
Attention à l'orange. Audrade ne se laissa pas influencer par cet avertissement intérieur. Mais la main qui nous écraserait se boursouflerait rapidement, et l'infection serait mortelle pour vous. On ne saurait le dire plus clairement sans entrer dans tous les détails.
« C'est impossible. »
Encore la lueur orange. Croyez-vous que nous ignorions comment vos ennemis vous ont forcé à revenir ici? Mon plus dangereux gambit. Audrade observa les effets produits. Son front assombri ne fut pas la seule réaction visible de Dama. L'orange disparut entièrement de ses yeux, les laissant curieusement placides dans un visage furieux. Audrade hocha lentement la tête, comme si Dama avait répondu. Nous pourrions vous laisser entièrement vulnérable à ceux qui vous traquent? « Ceux qui vous ont conduite dans l'impasse où vous êtes ?»«
Vous croyez que... »«
Nous savons. »« Tout au moins, à présent, je sais. » Et cette connaissance était à la fois source d'exultation et de crainte. « Qu'a-t-il donc là-bas pour terroriser ces femmes à ce point ?»« Nous ne faisons que rassembler nos forces avant de... »«
Avant de retourner dans une arène où vous serez immanquablement écrasés, où vous ne pourrez plus compter sur votre seul nombre. »
Dama retomba dans un galaque inarticulé qu'Audrade avait du mal à suivre.
Ainsi, ils vous ont contacté, ils vous ont fait des offres. Vous êtes folle de faire confiance à...
Je n'ai jamais dit que nous avions confiance.
Si l'Ogno,
elle indiqua d'un signe de tête celle qui les attendait à l'intérieur,
vous entendez me parler comme vous le faites. Vous seriez morte avant que j'aie pu vous mettre en garde.
« J'ai de la chance qu'il n'y ait ici que vous et moi.
Ne comptez pas pousser cette chance beaucoup plus loin. »
Audrade jeta par-dessus son épaule un coup d'œil au bâtiment derrière elle. Les modifications apportées au style de la guilde sautaient aux yeux. La longue façade de fenêtres, les boiseries exotiques et les pierres ornées de matières précieuses. Un étalage de richesses. Il y avait ici un faste difficilement imaginable pour quelqu'un qui n'y était pas préparé. Rien de ce que Dama pouvait désirer, rien de ce que la société sous son joug pouvait lui donner ne lui était refusé. Rien excepté la liberté de retourner à la dispersion d'où elle était venue.